zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les ondes buissonnières, c'est l'équipe du festival Les Yeux dans l'eau qui nous propose deux documentaires sur le thème bouillonnant de la crue. Les Yeux dans l'eau, c'est le festival international du film de rivière qui commence ce jeudi 13 mars et qui s'étale en bord de Drôme jusqu'au 23. Il y aura plein de films, bien sûr, des films à voir et à entendre, et beaucoup d'échanges auxquels joindre sa voix. De multiples propositions donc entre Heure, Cray, L'Oriole et Valence. Mais tout de suite, on part dans le sud-ouest, sur les rives de la Dourbie et de la Garonne. Merci à l'équipe des Yeux dans l'eau pour cette sélection.
Radio Larzac vous présente Le flot des mémoires, 1963, l'inondation de la Dourbie. Un documentaire sonore réalisé pour le syndicat mixte du bassin versant du Tarn-Amont à l'occasion des 60 ans de la crue de la Dourbie et de ses affluents.
Vous habitez Saint-Sulpice, et Jade m'a dit que vous connaissez une légende.
Ah, tout à fait, oui. Mais Saint-Sulpice, on vient ici pour demander l'eau, en pèlerinage. Et donc, Saint-Sulpice, il a vécu ici. Ils étaient trois frères, Saint-Sulpice, Saint-Quéral et Saint-Alban. Lui, il est resté ici, les autres, ils sont partis, Saint-Quéral et Saint-Alban. Et chaque lundi de Pentecôte, ils montaient au bout de la montagne, ils allumaient un feu pour qu'ils voient qu'ils étaient encore vivants. C'était leur seul moyen de téléphone, on va dire. C'était le téléphone moderne. Et puis alors, bon, Saint-Sulpice, dont il a vécu là misérablement, c'était un moine. Et il était allé à Nain chercher de faire un peu de commission. Quand il est revenu, les bandits lui ont pris ses commissions. Il revenait par le chemin du Saint-Sacrement qui passe à Venlas. Ils l'ont attaqué et ils ont dit qu'ils allaient le noyer. Alors il a dit, puisque je meurs par l'eau, quand on viendra m'implorer, je ferai pleuvoir. Mais je demande une chapelle au lieu où j'ai vécu. D'où la chapelle. Et moi, je suis la seule au monde à avoir été baptisée dans cette chapelle, ce qu'il faut savoir quand même. Hein.
Le 30 et 31 octobre 1963, Saint-Sulpice a fait beaucoup pleuvoir dans la vallée de la Dourbie. Un épisode cévenol a provoqué une crue exceptionnelle de la Dourbie qui a atteint le niveau de 7,40 m au pont de la Prade, sur la commune de Nantes. L'inondation a sinistré la vallée et cette crue reste à ce jour la plus forte observée sur le bassin de la Dourbie. Que reste-t-il aujourd'hui, 60 ans après, de cette crue ? L'eau a-t-elle tout nettoyé derrière elle ? Où a-t-elle sculpté la mémoire, la vie des habitantes et habitants de la vallée? Nous sommes partis à la recherche des traces de la crue pour écouter l'écho de la Dourbie, du Tarn et du Trévezel et interroger la mémoire des habitantes et habitants. Départ à la Roque Sainte-Marguerite où en 1963, le pont a été détruit par les troncs d'arbres transportés par la Dourbie en crue. Jean-Marie Delors raconte.
Alors ça c'est le niveau de la crue de 63. Hein. Alors parking inondable, restez vigilants, donc ils ont mis ça après quoi, pour avertir que ça peut revenir quoi disons. Et puis ce que vous voyez, voilà, le pont, tout ce qui est en crépi, c'était parti. Il ne restait plus que le truc en pierre, quoi, et toute l'arche crépi était partie. Donc après, ils ont fait une passerelle pour pouvoir monter jusqu'à Pierrefiche, hein, en dépannage, voilà. Le pont, il s'est bouché, en fait. Les gros arbres qui s'arrachaient ont bouché le pont. Donc ça a fait monter le niveau. Par contre, après, quand le pont a cédé, quand fait l'arche a cédé, le niveau est descendu au moins d'un mètre, bien d'un mètre. Et ce qui a fait céder le pont, apparemment, d'après les anciens, c'est que sous la roque, il y avait un sol, un énorme sol qui s'est déraciné et qui est venu boucher en partie l'arche du pont. Vous voyez cette statue là-haut? Mon grand-père a fait cette niche après. Et si vous voulez, l'eau arrivait au pied de la statue. Là, on serait sous 4 mètres d'eau. Hein. Ça arrivait au toit. Tout l'angle de la maison était parti. Donc ça faisait une grosse ouverture. Tout est parti par là. Les meubles, enfin, tout. On a tout perdu, quoi, en fait. C'est ça qui m'a choqué le plus. Il y avait un hangar. Donc, au bout d'un moment, l'eau, elle a soulevé le toit. Le toit, il est parti entier. Moi, j'étais parti avec ma mère, chez ma grand-mère, pour partir de là, quoi. Hein. Et je suis allé à la fenêtre de chez ma grand-mère. Et j'ai vu passer le toit entier sur l'eau. Sur le toit, il y avait le chien. Il s'était réfugié sur le toit. Et il partait comme ça. Quand il est arrivé au pont, le toit, il a explosé, quoi. Il s'est mis en miettes. Ma grand-mère est allée le récupérer plus loin sur la route. Ce pauvre chien, il a été traumatisé. On n'a pas pu le garder. Il était venu fou, quoi, en fait. Et ça, ça m'est resté, quoi.
Au moment de la crue, il y a celles et ceux qui n'ont pas pu rentrer chez eux puisque la route était inondée et détruite à plusieurs endroits par la puissance des flots, comme Christian, Paulette et Gabi Gély.
C'était un samedi puisque c'était les vacances. Et vous êtes venus me chercher à Sévérac, on est passé par Millau, et puis on a pris la vallée de la Dourbie, et quand on est arrivé à Le Petit Bon Dieu, on s'est retourné, il y avait de l'eau sur la route. Et quand on est arrivé à la plaine de Limay, il y avait de l'eau. On n'a pas pu passer, on s'est retourné et on est monté dans le village de Massebio.
La vague, elle s'est formée au pont de la Roca. Quand le pont a sauté, ça a fait une vague. On a vu arriver, mais ça n'allait pas très vite. On a eu le temps de faire demi-tour et de revenir. Et on a trouvé une voiture qui était un taxiteur de Campriolle qui nous a dit, mais moi je passerai parce que je suis passé à Limay, je passerai. Et puis il a fait comme nous, il a eu le temps de se retourner et on s'est retrouvé de nouveau au village de Massebio.
C'est Monsieur Fabre qui est venu avec nous, là, qui nous a hébergés la nuit, tout ça.
Et ce Monsieur Fabre, donc, c'était un agriculteur qui avait des vaches. Il a nourri un peu tout le monde. Il avait des châtaignes, je me rappelle, il nous a fait cuire des châtaignes. Et c'est la seule personne du village qui a trouvé le moyen de nous héberger un petit peu.
Et puis, on en a passé la nuit là.
Dans la nuit, quand la crue s'est retirée un petit peu, on est parti à pied dans la vallée de la Dourbie pour voir si après on pourrait passer avec la voiture et tout ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au Petit Bon Dieu, donc, la route était partie. Il restait 55 cm de route, donc on ne risque pas de passer de toute façon par là. Et puis vers Millau, la crue, elle avait ralenti, mais il y avait encore de l'eau, on ne pouvait pas passer non plus. Donc on a attendu, en sachant que personne n'était au courant de savoir où c'est qu'on était et tout ça.
Ginette Durand, elle, a vécu la crue à Saint-Jean-du-Bruel.
La rivière était pratiquement de niveau avec la chaussée, donc là c'est quelque chose qui fait très très peur. Et en plus de ça, arrivaient régulièrement des arbres entiers. Mais des arbres déracinés, de vers le Montégoal ou d'ailleurs, je n'en sais rien. Et c'est quelque chose qui nous faisait peur parce que, et les enfants le voyaient, parce que de la grande fenêtre, là-bas, ils voyaient les choses. Et ils me disaient, maman, pourquoi les racines sont lavées? Elles sont lavées parce que les arbres avaient été vraiment déracinés, les racines étaient blanches, et quand elles arrivaient à la chaussée, c'était toujours les racines qui remontaient. Tout le feuillage descendait en bas, enfin, ce qu'il en restait. Et là, donc, M. Ferlet nous a dit, vous faut venir à la maison, ne restez pas là en fin de soirée. On a attendu tardé, puis moi j'ai habillé chaudement les enfants. Et on a dit, on va aller chez les voisins et on verra. Ils ont été des gens très gentils, des amis, très accueillants. Ils avaient, à l'étage, ils avaient une petite location, donc on s'est mis là.
Bonjour, monsieur, dame.
Bonjour.
Bagarot, c'est tout ce que c'était non
plus. Voilà.
La Dourbie était un cru, mais le Trévézel aussi. C'est un affluent de la Dourbie qui traverse le village de Trèves dans le Gard, où nous rencontrons Simone Couder, Yvette Bertrand et Hélène Balson.
On a fini de vendanger à 3h de l'après-midi Et on n'avait même pas eu le temps de fouler les raisins ni de les mettre dans la cuve. On les avait laissés sous le porche. Et quand mon mari m'a dit « Oh, écoute, le temps, il marque mal », il me dit « Je vais les laisser à l'abri, qu'ils ne se mouillent pas ». Et puis alors, on est venu, on a bu un café, tout ça. Il a commencé à pleuvoir, mais vraiment bien une pluie régulière. C'était des rideaux de pluie qui tombaient. Ça a duré toute la soirée, toute la nuit, jusqu'au lendemain, 1h30. Mais à 1h30, quand ça s'est arrêté, il y a le soleil qui est un petit peu sorti. Et quand on est allé voir les dégâts, il y en avait un peu de partout, des dégâts. Il y avait des pierres, il y avait des... Et tout le monde avait quand même eu peur cette fois-là, parce que... Quand Madame Bouteiller, là où était au bout du village, elle voyait tous les murs, là, les traversiers, ça fait un peu un creux, ça fait un peu une canole. Et c'était des cascades d'eau qui dégringolaient d'un mur sur l'autre, d'un mur sur l'autre. Et elle m'a dit, mon Dieu, je me disais, si jamais il y a un de ces murs qui vient à lâcher, ça va être la catastrophe. Et puis alors l'eau, on la voyait monter. Dans le village, il y avait les marches à côté de chez Joël. Il y avait l'eau, elle arrivait à la deuxième et presque la troisième marche, et c'était plein d'eau d'un bout à l'autre.
Les trucs qui m'avaient marqué, c'est qu'il pleuvait énormément. On aurait dit des seaux d'eau qui tombaient. Ça faisait des murs de d'eau qui tombaient, c'était atroce. J'avais jamais vu ça, je l'ai jamais revu. Mon père avait des bœufs qui les avait dans une étable un peu plus bas. Et alors j'ai dit, je vais aller voir s'ils ne sont pas inondés. J'avais 13 ou 14 ans. Mon père m'a dit, mais non, tu ne bouges pas de la maison. Parce que le chemin là, qu'il y avait avant, c'était un chemin qui n'était pas goudronné à cette époque-là. Alors heureusement que j'ai écouté mon père, pour une fois. Parce que quand ça s'est arrêté, il y avait des trous de 1,50 m dans le chemin. J'aurais pu être prise dans l'eau comme ça, là. Oui, on réfléchit pas quand on est jeune. Mais quand tout s'est arrêté, on a vu qu'il y avait des glissements de terrain un petit peu partout.
Une bonne crue, l'eau, elle passe sur le gros rocher.
Comme j'étais petite, je me souviens pas de grand-chose, si ce n'est que mon papa était un peu aux 400 coups. Parce qu'il avait en charge l'usine de Cantobre, qui est une usine au fil de l'eau sur la Dourbie, et qu'il se faisait du souci pour que l'usine soit inondée, et également la famille Michel qui habitait tout à côté. Donc il est parti en catastrophe, en faisant un détour, je crois, pour voir ce qui se passait à l'usine. De mémoire, il a plus ou moins porté secours à la famille, donc... Je sais qu'il a dû se rendre à Millau pour peut-être amener ma sœur qui était en pension. Et la route de la Dourbie, Cantobre-Millau, qui était la route principale qu'on avait l'habitude de prendre pour accéder à Millau, était coupée, était totalement inondée. Donc il a dû passer par le plateau, chose inhabituelle pour nous. Et donc, avec beaucoup de pluie, l'entrée de Millau a été difficile.
Comme la Dourbie se jette dans le Tarn au niveau du pont de Curpla à Millau, la crue de 1963 a touché aussi cette ville et ses riverains.
Là, je m'appelle M. Blanc-Paul. Donc, nous nous trouvons en face de la ferme de la Maladrerie. La ferme appartient à l'hôpital, tout comme la ferme du Larzac qui est la ferme de l'hôpital là-haut. Au bas, il y a une porte cochère où il y avait l'étable des vaches. Ici, c'est la porte par laquelle on rentrait pour traire les vaches. Et l'eau était arrivée jusqu'ici. Donc les vaches auraient été noyées, d'où la nécessité de les sortir et de les sauver, puisque c'était le capital de la ferme. Et du coup, l'objectif numéro un, sauver les vaches. Donc voilà, sous la pluie, nous avons sorti les vaches, et toute la nuit, avec ma cousine, nous les avons gardées sur le pré en dessus, où l'eau ne risquait pas de monter. De ce jour-là, donc j'ai demandé à ma cousine qui elle vivait ici, elle a un souvenir, l'eau est arrivée très vite. Et je pense que ça vient du débordement de la Dourbie, qui arrive toujours plus tôt que le Tarn. Donc la Dourbie est arrivée en force, elle a bloqué le Tarn. Lorsque le Tarn a réussi à douler la porte faite par la Dourbie, l'eau est arrivée très vite. Je pense que c'est certainement ça.
«
Chacune de ces personnes a vécu la crue de manière différente et personnelle. Mais s'il y a bien un trait commun à leur récit, c'est un sentiment de peur et d'impuissance face à l'eau qui monte. Et aussi, le sentiment d'avoir vécu quelque chose de marquant, d'historique.
C'était vraiment impressionnant, hein, ça faisait peur. Et puis c'était ce grondement, ce roulement de pierre qu'on entendait, et puis après les troncs d'arbres qui tapaient dans les piles du pont vieux. Ça, c'était vraiment impressionnant.
J'ai une souvenance importante de ça. Parce que ça marque quand même. De voir tant de pluie tomber, moi. Je lui disais, c'est pas possible, on dirait qu'on nous jette des seaux d'eau tellement que c'était épais. Ça faisait, je sais pas comment dire, des rideaux de pluie qui tombaient.
Toutes les personnes qui l'ont vécu ont le réflexe que dès qu'il pleut, hop, ils surveillent le niveau de l'eau.
Florence Delors, habitante de la Roque Sainte-Marguerite et adjointe à la mairie.
Ça a marqué mais tous les jeunes de la Roque, hein, parce que tout le Baribas qu'on appelle, toutes les maisons ont été abîmées aussi, plancher soulevé et tout, mais c'était beaucoup de maisons secondaires dont l'impact a été différent, le vécu, on n'a pas ressenti peut-être la même chose, on n'est pas parti vite de la maison.
D'ailleurs, pour certaines et certains, l'épisode de la crue a été le déclencheur de profonds changements de vie.
Ouais, c'était un mauvais souvenir.
Paulette Delors, habitante de la Roque Sainte-Marguerite.
Et puis en bas, là, mon beau-père était très bricoleur. Et on avait là une chaussée, là. Et alors, il avait fabriqué un moulin pour faire la farine, pour les bêtes, hein, pas pour nous, parce que c'était... Mais tout est parti, quoi, aussi. Alors là aussi, ça l'avait beaucoup marqué. D'ailleurs, il n'a plus été le même après. Alors cette année-là, ce n'était pas terrible parce que j'avais perdu mon papa au mois de juin. Et puis l'inondation en 63. Alors, c'était une mauvaise année pour nous.
Est-ce que vous avez, par exemple, changé des habitudes après cette crue?
On s'est débarrassé des vaches qu'on avait. Mon beau-père allait distribuer le lait au village. Tous les jours. Et ça faisait vivre un peu la famille. On avait le terrain en face, là-bas. On y faisait le jardin. Mais la terre était partie, on ne pouvait plus rien y faire. Alors, puis bon, mon mari a trouvé un travail à Millau. Et on a vendu les vaches. Et puis, bon, on a fait le jardin quand même de ce côté-ci.
Ça a quand même changé un peu. Pas mal.
Ah, mais ça nous a changé quand même un peu nos habitudes, quoi. Hein, oui.
Tout comme les souvenirs qui ne s'effacent pas malgré le temps qui passe, l'Adourbi a un cru a laissé des marques indélébiles sur le territoire. Guy André, habitant du Pujol, et Régis Valgallier, maire de Trèves, constatent tous les deux que certains chemins n'ont jamais été remis en état praticable après la crue de 1963.
Eh bien, la crue, ce qui a changé, c'est que nous ne pouvions plus aller à nos vignes en face, là-bas. En train, on avait des vignes. Les chemins de Jouquemerle qui étaient fermés, malgré que le monsieur Malzac, qui habitait le Calcadis, qui était à un kilomètre d'ici, avait informé la possibilité de passer dans sa terre pour pouvoir aller à l'église. C'était déjà une bonne chose. Les chemins, il a fallu les changer, il a fallu intervenir. Par rapport à la crue, on ne peut plus passer, là.
En fait, la crue a changé un peu l'aspect du territoire.
Peut-être pas l'aspect, mais la façon de vivre.
J'ai eu les trucs, hein. Ouais. Ciao.
Alors, après cette crue, des aménagements, il n'y en a pas eu. Au contraire, il y a eu des dégâts qui n'ont pas été refaits. Par exemple, le chemin de la Plonque, quand il passe sous chez Nathalie, ce qui a été emporté, et il n'a pas été refait. Et ça, c'est des chemins communaux qui existent.
Qui ont disparu.
Et qui ont disparu à certains endroits.
C'est à la crue. Justement, voilà. À l'époque de la...
Ouais, c'est à cette époque-là. Voilà, ça c'est dommage. Hein.
Non, en 63, tu avais quel âge ? 4 ans, 5 ans.
On voit aussi que certains aménagements sur le territoire sont pensés pour s'adapter au cours des rivières, comme les arches très hauts du pont de Trèves.
Tu regardes la hauteur des arches,
C'est ce qui fait dire que le Trévesel est un torrent qui peut monter très rapidement et qui est où il peut passer énormément d'eau. Ça, il faut en tenir compte sur tous les pommes, parce que quand l'herbieux il faisait quelque chose, il le faisait en rapport des risques. C'est immense comme grandeur. Puis après, là, il s'est fait un jardin. Sinon, c'est la troisième marche là-bas, laisser passer l'eau aussi, et servait de chemin. C'était caladé, c'était une ancienne voie romaine. En 1963, l'eau, elle arrivait là, au ras de cette fenêtre à nous.
Ça fait combien de mètres ?
Ça fait...
6 mètres ? 7 mètres ?
6, 7 mètres, oui.
La rivière, la crue, laisse leur marque donc. La mémoire de la crue est inscrite non seulement dans les souvenirs, mais aussi sur le terrain. Cela prend la forme des repères de crue. Jade Bréchignac, chargée de mission inondation au syndicat mixte du bassin versant du Tarn-Amont, explique.
Alors les repères de crue, ils permettent de conserver la mémoire des événements qui se sont passés et ça permet de matérialiser le maximum de la crue et donc que quand on passe devant, on se rende compte à quel niveau l'eau est montée. Ils peuvent aussi servir du coup pour les modélisations hydrauliques. Du coup, quand c'est les maximums de crue, on peut se baser dessus parce qu'une modélisation, il faut la calibrer pour être sûr qu'on se rapproche au maximum de la réalité. Et donc ces repères de crue servent aussi à calibrer ces modélisations. Donc on a des retours de gens du territoire qui trouvent ça important. Ben, la pose de ces repères de crue, en tout cas de marquer ces maximums de crues parce que c'est des événements qui les ont marqués, donc eux comme ça ils peuvent en conserver la mémoire et c'est quelque chose qui grave en fait cette expérience et qui fait qu'elle reste gravée, qu'elle reste marquée et qu'on l'oublie pas. Et du coup ça permet aussi de se rendre compte une nouvelle crue qui arriverait si d'après les prévisions météo on dit par exemple à Millau bah, ça va être un petit peu supérieur ou équivalent à la crue de 82 ou à la crue de 63. Si les riverains ont en tête ces repères de crue, ils peuvent se représenter l'importance que la crue qui va arriver va avoir et du coup à quel point il faut s'en protéger, se préparer, qu'est-ce qu'il faut surélever chez nous, jusqu'où l'eau va monter, est-ce qu'il faut évacuer, etc. Donc c'est aussi un outil d'organisation et de gestion de crise qui peut servir aussi à savoir ce qui va arriver maintenant.
Bonjour.
Je vous laisse.
Pour celles et ceux qui ont vécu la crue, voir les repères posés sur les routes, les ponts ou les murs permet de rendre publique l'expérience personnelle, de ressentir un lien invisible avec les autres personnes qui ont vécu cet épisode.
Et je pense que des fêtes comme celui-là, c'est important de temps en temps de le rappeler pour montrer que ça peut arriver, y compris sur des plateaux comme chez nous. Encore aujourd'hui, régulièrement, on nous dit, mais si vous risquez rien du tout, ben, on ne risque pas grand-chose, mais ça peut arriver quand même, de temps en temps, qu'il y ait un épisode comme ça. Hein.
Moi, je suis contente qu'ils aient mis le petit panneau dans la vallée de la Dourbie. Non, ils ont mis un petit panneau. Il était, au départ, ils avaient mis un trait rouge. Hein, et ils avaient écrit « cru ». Et puis, ils ont fait des travaux. Ils ont refait le pilier. Et ils ont mis cette petite plaque... Et quand ils l'ont eu fait, ça, eh ben, je leur ai fait une lettre que j'ai mise sous un papier plastique parce qu'ils n'habitent pas là, les gens, pour leur dire, pour les remercier d'avoir fait ça.
Et qui avait fait ça ?
Les propriétaires de la maison qu'il y a derrière. Ça fait partie d'un vécu. Mais moi, j'ai dit, mais ça parle aux gens aussi quand ils veulent construire ou tout ça, qu'il faut tenir compte de ça. L'eau, on ne l'arrête pas.
Par contre, les repères que vous avez mis, là, tout le monde le trouve très bien parce que ça donne vraiment une idée plus réaliste de dire, tiens, l'eau était là, et ça permet de faire attention quand même un petit peu. Hein. Bon, je vous dis, on n'a pas vécu depuis des grosses crues, mais c'est des repères qui sont importants pour la population et pour les touristes. Ils se rendent compte aussi, tiens, l'eau est arrivée là, et voilà, ça interroge. Et, on ne peut pas dompter la nature. L'eau, elle passe, c'est comme ça, quoi.
Après une telle crue, il aura fallu nettoyer, bricoler, déménager, reconstruire et aussi se reconstruire. Parfois, dans le chaos général, la rivière laisse derrière des objets que l'on retrouve plus tard et qui nous ramènent inévitablement aux souvenirs. Comme c'est arrivé à Paulette Delors.
Alors cette année-là, on avait fait pas mal de confitures. Bon, et puis quand à la chambrette, la mur s'est écroulée, tout est parti par là. Et puis, bien longtemps après, j'avais retrouvé un plat plein de pâtes de coin qui ne s'était pas cassé. Et moi, je retrouvais au fond des escaliers, dans le sable, encore des habits. Vous savez, ça fait quelque chose quand même. Hein.
C'est ainsi que l'eau s'empare de morceaux de vie que ces objets du quotidien représentent, ainsi que des souvenirs qu'ils contiennent. Alors je crois que voir la rivière couler, c'est aussi écouter ses mémoires, nos mémoires, et tous les mots, les douleurs et les espoirs qu'on confie à l'eau ou qu'elle prend. Les témoignages que vous avez entendus ont en commun un autre aspect. Malgré l'expérience traumatisante que la crue leur a provoquée, les personnes qui l'ont vécue ressentent un lien fort avec la rivière. S'il y a bien une conclusion qu'on peut tirer de toutes ces mémoires, c'est que les rivières sont vivantes. Si les rivières façonnent les territoires qu'elles traversent, elles sont aussi une partie intégrante et irremplaçable de nos vies.
Ce qu'elle représente pour moi, elle fait partie de notre environnement, de notre paysage, de la maison, donc c'est la vie. Sans la rivière, on est mal, on est triste. L'été, quand elle devient une petite source, on la surveille tous les jours parce qu'on a besoin d'elle.
C'est quelque chose de vivant, de gai, qui apporte à tout le monde, qui apporte la vie en quelque sorte, parce que c'est une présence de tous les instants, puisqu'on a la chance de pouvoir la regarder. Elle nous apporte beaucoup de visites dans notre village et dans l'extérieur, enfin tous les gens qui viennent visiter. Et c'est la vie en quelque sorte, la rivière. Si vous avez une grave maladie et vous pouvez contourner l'obstacle, vous oubliez un petit peu. Et bien là c'est pareil, on a oublié la crue, mais on a la rivière.
On ne pouvait pas vivre s'il n'y avait pas la rivière, même rien que pour aller laver le linge et tout ça. À l'époque, il n'y avait pas les machines à laver, hein. Tous les lundis, il y avait 3-4 lavoirs. Toutes les femmes du village, elles étaient au lavoir. Et alors, elles savonnaient leur linge, elles le rinçaient. Après, elles allaient le faire bouillir, elles le savonnaient. Et elles allaient de nouveau le rincer. Après, elles y passaient le bleu pour le rendre encore plus lumineux, plus blanc. Et tout le monde faisait ça. Hein. Ma rivière, c'est comme ma maison. C'est pareil.
Malgré que j'ai vécu 34 ans à Paris. Mais j'avais toujours un pied ici. D'ailleurs, cette maison ici, je l'ai construite en 63. Donc j'avais la volonté de ne pas oublier le Poujol, puisque j'avais fait ça. Et s'il fallait recommencer, je recommencerais pareil. Moi, j'ai des souvenirs ici, des souvenirs d'enfance. On allait pêcher les truites à la mantarde. Comme il y avait beaucoup de racines, les truites, elles aiment ça. Là. Vous allez sous les racines, avec les doigts comme ça, pam, vous touchez la truite, vous la caressez tout le vent, pam, vous l'attrapez. On rigolait plus que le plaisir de prétendre qu'on allait attraper des truites.
Ouh, la rivière, c'était notre vie. On était toujours dans l'eau. On attrapait beaucoup de poissons. Des fois, c'était pas permis. Quand le poisson remontait à l'automne par la paissière, là, il y avait des trous dans cette paissière. Et là, dans ces trous, c'était rempli de goujons. Les goujons qui remontaient la rivière, les truites qui remontaient la rivière. Et on arrivait à attraper des truites et des goujons quand on était gosse. On pêchait au drapeau. Alors avec un drapeau, on posait le drapeau, on enfermait le goujon, on relevait le tout et on mangeait des goujons tant qu'on en voulait.
Tout le temps, quand on dort, on se régale de dormir avec, en fait, avec le son de la rivière. Tout l'été, on laisse la fenêtre ouverte. Ça nous berce et puis c'est comme un havre de paix. Ça fait du bien, ça nous ressource. On part en vacances, mais s'il n'y a pas un point d'eau, ça nous manque, le point d'eau nous manque. Et puis on surveille, quoi. Cette année, il y avait un peu de vase. Alors on était inquiets, on se dit quand même, il y a de la vase. D'où ça vient? Enfin bon, oh, les poissons, les oiseaux, on remarque qu'il y a des bergeronnettes, que c'est la grise, elle est moins présente que la jaune. Enfin, les libellules, le jaune, on pêchait les verrons. Donc du coup, il y avait un tas de petites libellules, les marrons et puis les petites bleues, là. Et maintenant, on surveille, on se dit, tiens, il manque celle-là, il manque celle-là. En fait, c'est un repère pour nous de la nature aussi, de dire la rivière a changé, la rivière change, ça vient d'eux. Donc nous, on essaie de la préserver à notre niveau. Hein. Cette rivière fait partie de nous, en fait, hein, fait partie de notre culture, de nous, et on ne peut pas vivre sans elle.
C'était Le flot des mémoires, 1963, l'inondation de la Dourbie. Un documentaire sonore réalisé par Radio Larzac pour le syndicat mixte du bassin versant du Tarn-Amont. La légende de Saint-Sulpice est racontée en ouverture par Rolande Verrière. Prise de son, écriture et montage de Sofia Pavanini avec la complicité de Jade Bréchignac. Un immense merci à toutes les personnes qui nous ont confié leur récit.
Ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes!
Garonne, Tilicru. Un documentaire de Nelly Delpos et Marie Chendal.
Quand même impressionnant quand elle monte, quand on est à côté, ça fait du bruit quoi. Ça fait un bruit sourd. C'est les graviers qui roulent de fond, je pense, qui font. Ça amène les graviers qui sont plus hauts, hein, ils descendent, ça fait un bruit assourdissant. Ouais. Et surtout quand on voit aussi des troncs qui passent là, ouais, c'est assez impressionnant. Je m'appelle Craco Denis, je suis agriculteur depuis un paquet de temps, maintenant 40 ans. Enfin, ici, je suis depuis 85, en bordure de Garonne, là, sur 800 mètres de bordure de Ripisylve, qui est juste en bordure de Garonne. Et plus après, j'ai une exploitation sur Grenade, là, d'une quinzaine d'hectares aussi, qui est sur Garonne, aussi dans un tournant. On ne parle pas de la Garonne, on dit Garonne. On va voir Garonne, on ne va pas voir la Garonne. C'est comme ça. Enfin, si on dit la Garonne, c'est une faute de syntaxe. C'est bon. La Garonne est montée parfois, mais elle n'est pas arrivée au niveau des brebis. Quoi. Sauf qu'elle peut y arriver. Les brebis étaient parties, elles avaient suivi la bordure de Garonne et elles étaient au niveau de la réserve, enfin au niveau du ramier de Bigorre là. Et bon, c'est le hasard un petit peu, mon frère travaillait à Toulouse dans une entreprise aussi qui avait des gars de l'Ariège. Et les gars de l'Ariège lui ont dit il y a un abat d'eau de l'Ariège, c'est incroyable, il y a de l'eau partout, ça va monter. Quoi. Donc il m'a appelé. Il m'a appelé, fais gaffe, il me dit il y a la Garonne qui va monter sûrement parce que dans l'Ariège ils sont affolés. Quoi. Donc en fait, je suis allé chercher, tac, et combien je ne me rappelle plus maintenant. Mais quelques temps après, je ne sais pas si c'est dans la nuit où la Garonne est montée, elle est montée et descendue, quoi, tac, mais elle est montée là où il y avait des brebis. Ouais. la météo. De toute façon, l'agriculteur, il est tout le temps avec le téléphone, ou il regarde la météo tout le temps. Hein. Donc dès qu'il y a des abats d'eau qui sont sur l'Ariège ou sur les Pyrénées, bon, on surveille. Moi, j'ai un Vigicru, je regarde Vigicru, là, et le niveau au Pont-Neuf à Toulouse. Donc quand je surveille, quand il y a 2,20 m là-bas, hop, je descends. Combien, 2-4 heures après ou 5 heures, tac, ça, il y a le niveau qui est ici. Il y a un service qui dit que, je ne sais pas si c'est la préfecture qui avertit les mairies. Et les mairies téléphonent aux riverains pour dire attention, il y a des crues, il y a une possibilité de submersion, enfin, ça va monter, quoi. Voilà, faites attention. Bon, mais c'est vrai que là, depuis quelque temps, on est assez formé, oui, au niveau des crues. Bon, il faut y être attentif aussi, quoi, quand il pleut, il faut se méfier. Enfin, autant l'été, quand elle est calme, tant qu'il n'y a pas de... on se dit, tiens, c'est, on dirait le lac, là, enfin, surtout chez moi, là, comme il y a un île qui s'est formé un peu plus bas, on ne s'imagine pas que quand il y a des crues, c'est... C'est impressionnant, oui. Faut pas, on ne s'approche pas trop, quoi. On a peur de glisser. Hein. Ouais.
C'est une Garonne. C'est une Garonne. C'est une Garonne. C'est une Garonne.
Le débit moyen annuel de la Garonne sur le territoire de la réserve, il est à peu près à 200 m3/s. On va commencer à parler de crues morphogènes pour des crues qui vont être à 3000 m3/s. Ça correspond à peu près à des crues qu'on dit décennales. Pour information, la crue centennale qui avait marqué les esprits autour de Toulouse en 1875 était une crue avec un débit de 7000 m3/s. Voilà, donc c'est quand même un fort débit qui est un peu catastrophique dans les villes et villages. Alors il faut savoir que ce ne sont pas des crues qui arrivent, par exemple pour la décennale, ce n'est pas une crue qui arrive tous les 10 ans, c'est une crue dont le débit qui a été défini a une chance de revenir une fois sur 10. Donc sur 10 crues, on sait qu'il y en a une qui va revenir avec tel débit, et c'est la crue de référence pour la crue décennale, par exemple. Donc, en général, quand on parle de crue annuelle, ce sont des faibles crues. Quand on parle de crue décennale, ou cinquantennale, ou centennale, c'est des débits qui vont être très élevés. Geoffrey Grève, je travaille pour l'association Nature en Occitanie, qui est gestionnaire de la réserve Confluence Garonne-Ariège. Ce territoire a été classé réserve naturelle, c'est parce que déjà il est remarquable par rapport à la biodiversité qu'il héberge, et ensuite parce qu'il y a des facteurs d'influence ou des menaces qui ont été identifiés par rapport à ce patrimoine naturel. Parmi les menaces, déjà, il faut savoir que la réserve confluente Garonne-Ariège est une réserve qui est aux portes de la métropole de Toulouse. On dit que c'est une réserve périurbaine, donc elle est soumise à une forte fréquentation du public, donc on peut déjà avoir des petites problématiques locales par rapport au dérangement d'espèces ou de la dégradation de certains habitats. Ensuite, on a d'autres problématiques qui sont moins directes, et donc la plus évidente en tout cas, c'est l'incision de la Garonne et de l'Ariège. Cette incision, ça veut dire que, tout simplement, que le lit de ces rivières s'enfonce, et ce qui ne permet plus d'alimenter les zones humides périphériques. Donc historiquement, les rivières débordaient et les crues connectaient les zones humides, donc c'est une sorte de réalimentation. Et maintenant, avec l'incision des lits, les zones humides ne sont plus alimentées. Alors cette incision, elle est due à un phénomène très particulier. Il y a eu beaucoup d'extraction de granulats au sein de la Garonne et de l'Ariège, ça a conduit à un déficit en sédiments. Et de fait, la rivière a compensé en produisant des sédiments, en faisant une érosion verticale. Du coup, le lit s'enfonce et les zones humides ne sont plus connectées.
Oui, après, c'est vrai que... Au niveau de Garonne, moi, depuis le temps que je suis ici, il y a des changements, hein, on voit des changements, oui. Il y avait de l'élevage, il descendait les vaches en bordure de Garonne aussi, voilà. Et il y avait du gravier, il y avait des plages de gravier, c'était énorme, c'était à 500 mètres d'ici, là. C'était un truc, c'était magnifique comme site. Il y avait du gravier partout, sur dans Garonne. Après, ils ont, dans les années 70, ils ont, comment dire, il y a eu des autorisations d'utilisation de sortir le gravier. Donc, ils ont sorti le gravier. Le site a été détruit, quoi. Il a été complètement chamboulé. En fait, depuis les années 80, on ne sort plus du gravier. Donc, il y a du gravier qui arrive, qui se dépose. Il y a des plages, pas des plages, mais des îles qui se forment, des bancs de gravier comme ça. Donc il y a une île qui s'est formée un peu plus bas et le niveau est monté.
Lorsque je parle de zones humides, ce sont des zones qui présentent des contextes très humides, comme leur nom l'indique, et qui sont alimentés soit par des eaux de surface, donc ça peut être par les pluies, soit par la rivière, avec les phénomènes de crues, soit par la nappe alluviale, pourquoi pas. En tout cas, ce sont des entités humides, avec où il y a une présence d'eau, soit de manière temporaire, soit de manière permanente, et qui accueillent une biodiversité qui est spécifique à ces conditions aquatiques ou humides. Les crues permettent également d'alimenter donc les zones inondables qui vont jouer un rôle d'éponge, donc de stockage de l'eau de crue pendant l'hiver, pour mon territoire en tout cas, et qui vont le réinjecter petit à petit au cours de la saison d'été, ce qui va permettre de conserver une ressource en eau qui va être utile à toute la nature, dont l'homme, puisque l'homme fait quand même partie de la nature, il ne faut pas l'oublier.
Alors le fait de sortir le gravier, ça a descendu le niveau en fait, mais d'un paquet quoi, peut-être, alors je sais pas, mais j'ai l'impression que ça a descendu de 2 ou 3 mètres le niveau. Le fait que ça a baissé, le niveau, la Garonne allait plus vite et ça mangeait plus, quoi. Ça a fait comme un couloir encaissé comme ça, et ça va plus vite et ça mangeait plus. Avant, comme il y avait du gravier au fond, Elle montait, elle débordait sur les bordures, la quantité d'eau s'étalait sur une surface importante et ça courait moins vite, quoi. L'eau elle passait plus lentement et ça avait moins de dégâts. C'était submergé, mais ça passait. La quantité d'eau était la même, mais elle passait plus lentement.
Parmi les crues que nous voyons passer sur le territoire, soit de manière régulière, soit de manière très ponctuelle, on parle de crues morphogènes. Ces crues-là, on les désigne comme ça parce qu'elles vont vraiment modeler le territoire, elles vont revoir les limites de leurs berges, elles vont déplacer les sédiments, elles vont créer par exemple des îlots, elles vont déposer des galets, elles vont en reprendre ailleurs. Et il va y avoir vraiment un travail de modelage du paysage fait par ces crues morphogènes-là. Aujourd'hui, on a quand même l'image du cours d'eau qui est canalisé par des enrochements ou par des digues, mais il faut savoir qu'un cours d'eau qui est en bon état de santé va beaucoup divaguer de manière latérale, c'est-à-dire que par exemple, en 1950, son cours d'eau les limites de son lit sont dans un endroit particulier. En 2020, le lit peut se décaler de plusieurs centaines de mètres à l'ouest ou à l'est ou au nord ou au sud.
Moi, ma cara.
Il y a un ancien de Grenade qui se promène là, qui a, je sais pas, il doit avoir 85 ans ou même peut-être plus. Et en discutant comme ça, il a expliqué que ces rangées d'arbres, en fait, c'était une allée d'acacia qui, quand on le prolonge comme ça, en fait, il faisait 150 ou 200 mètres de cette allée. Et quand on l'imagine, le bout de ces 200 mètres-là, il est au milieu de Garonne maintenant. Voilà, ça a mangé peut-être 100 mètres, je sais pas, ou 150 mètres. Parce qu'il y avait un hippodrome, en fait, dans cet endroit-là, dans les années 40, 45. Ouais, une personne qui avait des chevaux, et il avait fait un hippodrome sur sa parcelle, et il faisait des courses de chevaux. Ouais. Mais bon, c'est, on trouve encore des parties de béton dans la terre.
Encore aujourd'hui, je pense que les riverains ont encore cette image de la crue comme une catastrophe qu'il faut absolument endiguer et surtout ne pas laisser revenir sur le territoire. Aujourd'hui, avec les différentes études qu'il y a eu sur cette thématique-là, on est de plus en plus dans la connaissance et la compréhension du fonctionnement des rivières et on comprend que si on continue à canaliser ces cours d'eau, si on continue à les endiguer, ça va déplacer les problèmes et ne pas les résoudre. Donc les phénomènes d'endiguement, d'enrochement, en fait, ne font qu'amplifier le problème pour les territoires qui sont en aval de ces communes-là. On sait que ce sont des aménagements qui sont contre-productifs, parce qu'ils vont accélérer les courants, ils vont accélérer l'érosion de certaines localités dans la rivière. Donc malheureusement, ces aménagements qui ont été faits de manière très réactive sont aujourd'hui complètement néfastes pour la gestion de la ressource en eau. Et malheureusement, pour le patrimoine naturel, pour tout ce qui va être biodiversité liée aux zones humides, on va se retrouver à des zones complètement déconnectées parce qu'elles ne sont plus alimentées en eau, et donc des paysages qui vont complètement changer. Aujourd'hui, les services d'État, le monde scientifique commencent à beaucoup communiquer sur les enjeux des crues, sur les bienfaits et sur les bonnes pratiques à avoir pour justement permettre qu'elles reviennent sur le territoire pour réduire l'ampleur de leurs dégâts dans les villages. Donc on a beaucoup besoin de discuter avec les acteurs locaux pour déjà leur expliquer le fonctionnement et leur expliquer ce qu'on peut faire et surtout les rassurer qu'on ne va pas rapporter la rivière dans leur maison. Et on est plus dans une perception de cohabitation, logique et intelligente, pour que l'homme puisse maintenir ses activités et pour que le patrimoine naturel, pour le fonctionnement de la nature, puisse quand même continuer à être réaliste. Cette perception de la cohabitation, elle a été mise en place en améliorant la connaissance, mais aussi en améliorant le cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus créer de merlons ou de digues en zone inondable comme ça, parce qu'on en a envie. Il faut vraiment avoir une étude d'impact particulière qui va permettre de peser le pour et le contre.
Il faut essayer d'y vaguer, quoi, en fait. Je le comprends comme ça, quoi. C'est pour ça que sur mes parcelles qui sont à Grenade, là, je pense que petit à petit, elles vont disparaître. Ouais. Après, quand elles auront disparu, il y a des maisons qui ont été construites en face, quand même. Alors bon. Mais après, quand les maisons vont être attaquées, je ne sais pas si ce serait surprenant qu'il n'y ait pas quelque chose de prévu pour empêcher que ça emporte les maisons. Ça serait. Mais voilà, bon, je ne sais pas.
Quand je parle de restauration de zones inondables ou de zones humides, c'était restaurer les moyens de connexion. Donc, c'est-à-dire que l'eau n'arrivait plus sur ces zones-là. Et donc, quand on dit restaurer, c'était faire une incision dans un aménagement particulier pour que l'eau puisse rentrer à nouveau de manière naturelle sur ces zones humides. Donc, la restauration des zones inondables, ça avait deux enjeux particuliers par rapport à notre territoire. C'était premièrement, déjà, de restaurer la fonctionnalité de ces zones et donc de conserver un patrimoine naturel lié aux zones humides. Et le deuxième enjeu, c'était vraiment un enjeu plus lié sanitaire, pour garder, stocker les eaux de crue sur un territoire naturel, au lieu que ces eaux-là se retrouvent dans les villes et villages et dans les maisons des particuliers.
On dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent. Mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent. Bertolt Brecht.
C'est une Garonne.
C'était Garonne qui lui plut. Nous remercions chaleureusement Denis, Geoffrey, Sarah et Maurice.